Bonjour tout le monde, ici Myriam Taillon de la Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean, votre fondation en santé mentale dans la région. Bienvenue sur le podcast Toute la vérité, rien que la vérité sur la santé mentale, où à chaque semaine, on rencontre des invités spéciaux pour démystifier qu'est-ce qui se passe en santé mentale dans la région, quelles sont les problématiques de santé mentale qu'on peut rencontrer au courant de notre vie. Puis également, bien, on fait la découverte d'histoires inspirantes de des personnes, de des professionnels et également de des intervenants à travers la région. Cette semaine, on aimerait prendre un petit moment pour les gens qui ne sont pas au courant. Ma belle co-animatrice, Renée Tremblay, est malheureusement décédée cette semaine, le 12 mars. Alors, on aimerait de tous les membres de la Fondation Équilibre et de moi-même, de tous ses amis et ses proches, souhaiter à tout le monde un bon rétablissement. C'était une femme extrêmement chaleureuse, généreuse et elle a marqué certainement la Fondation Équilibre et la Fondation Vive ma santé mentale. Alors, Renée, de où tu es présentement, j'espère que tu nous entends et que tu continueras à faire briller ce podcast-là qui, pour toi, était un beau projet qui te permettait de briller sincèrement. Alors, s'il y a des personnes qui souhaitent découvrir qui était Renée, vous pouvez écouter les épisodes, entre autres celui avec notre beau Charlot qui est atteint de la paralysie cérébrale et également les autres qui suivront ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une amie, une personne qui a vraiment fait quelque chose de spécial dans ma vie, en fait, que je me rappellerai pour le restant de ma vie, ça c'est certain, une rencontre inspirante, puis c'était vraiment important pour moi aujourd'hui de l'accueillir sur le podcast de la Fondation, et puis je suis contente que ça soit sur le premier podcast, le premier épisode, en fait, de notre deuxième saison. Alors, allô Alex, le petit yeux mouillés.
Tu sais bien que je suis toujours hyper sensible.
Oui.
C'est un peu ça aussi, le trouble.
C'est touchant, ben oui. Puis écoute, Alex, aujourd'hui, on parle du trouble de personnalité limite. On va parler aussi de d'autres choses qui est autour de cette problématique-là. Mais en premier, comme chaque invité, je veux que tu nous parles de nous, de qui est Alexandra, d'où elle vient.
Moi, je viens du Saguenay. J'ai vieilli là jusqu'à un petit peu avant mes 20 ans. Puis je suis sortie 10 ans à Montréal faire mes études parce qu'ici, il n'y avait pas ce que je cherchais. Fait que après 10 ans, je me suis tannée de Montréal. Puis je suis revenue en région. Okay. Donc, comme je voulais toujours rester en région. Puis à Montréal, il y avait le programme d'intervention en délinquance. Fait que ici, on a juste travail social, éducation spécialisée, mais c'était pas assez spécifique à ce que je voulais. Fait que j'ai sorti un peu de la région.
OK. Puis Alexandra, c'était une petite fille comment quand t'étais tout petite? Ça a été...
C'était difficile. Déjà, du plus loin que je me rappelle, ça a déjà été difficile.
OK.
Je te dirais que plus loin je remonte, là, quasiment prématernelle, là, puis je sais déjà que c'était difficile. Tu sais, les relations interpersonnelles avec les autres enfants, là, c'est ça, c'était pas facile. J'avais un caractère, j'avais déjà ma gestion d'émotions était déjà difficile. Fait que tu connais déjà un peu mon caractère, mais là, imagine, genre, sans tout à côté, sans tout le suivi que j'ai fait, là. Fait que c'est ça. Déjà, tu sais, c'était pas facile. Puis là, avec les années, avec les années, c'est que c'est pas facile dès le départ. Mais avec les années, ça devient, on dirait, de pire en pire, parce que tu développes des mécanismes d'adaptation, mais qui sont souvent des mauvais mécanismes. Et ça devient, on dirait, ça fait comme une sorte d'effet boule de neige, puis là, ça vient, à un certain niveau, même en vieillissant, t'as plus de responsabilités, tout ça. Fait que là, ça vient tout impacter le reste.
Mm-hmm.
Fait que c'est sûr que dès le départ, je pense que j'ai pas mal toujours su qu'il y avait l'impression qu'il y avait un petit quelque chose de bizarre ou qui avait pas de l'air de fitter.
OK. Puis ça se caractérisait comment? T'sais, t'avais-tu des troubles de l'humeur? T'avais-tu des pensées noires? T'avais-tu...
Très, très jeune, c'était plus une drôle d'impression. C'était... Okay. C'était une impression de, t'sais, de pas trop savoir ce que tu vis.
OK.
T'sais, c'est déjà comme bizarre comment tu regardes autour. Hein, c'est comme... Ouais. On dirait que tu cherches autre chose, tu sais. On dirait que tu cherches plus. Finalement, tu sais, c'est avec les années, c'est là que tu apprends à plus mettre des mots dessus. Fait que la colère était quasiment un des plus des sentiments les plus prédominants dans ma vie. Après ça, c'est sûr que c'était plus dépressif parce que tu vis au fur et à mesure toutes les conséquences de ce que tu vis. Donc, à partir de l'adolescence, je te dirais, là, 12-13 ans, là, ça a commencé à être une période là, où vraiment là, je voyais que noir, puis ça a été noir pendant longtemps. Je voyais pas le bout du tunnel avant quasiment mi-vingtaine, là. Fait que ça a été vraiment difficile, mais ça, c'est... Quand quelqu'un, tu sais, dit souvent qu'il vit des émotions, puis l'autre dit « Ah, tu traumatises », ben non. La personne vit vraiment 100 fois l'émotion que quelqu'un vivrait normalement.
Mm-hmm.
Fait que souvent, c'est là que tu vois que c'est toujours intense.
Puis tu te sens pas comprise en quelque sorte aussi, c'est
non.
Ça qui fait que...
Même si tu essaies de l'expliquer, le monde n'y comprend pas.
Mm-hmm.
Tu sais, tu essaies, mettons, d'expliquer que tu comprends pas c'est quoi la vie en général. Tu sais, tout le monde, souvent, il y en a qui disent « Ah, oh, c'est le fun, la vie, moi, oh, la vie est belle. » Tu essaies d'expliquer que tu comprends pas.
Ouais,
principe de tu vis, tu viens sur le monde, à sa terre, tout, OK. Là, il faut que tu passes ta vie à essayer de survivre, travailler, avoir une maison, quelque chose pour moi, de quoi sur ta tête. Pour après ça, vieillir, tomber malade, attendre de mourir. Je voyais pas le but.
Ouais, j'étais
comme, c'est-tu vraiment juste ça? Puis, t'as aussi comme, j'essayais d'expliquer des fois, il y a des phénomènes qui peuvent avoir l'air, pas chez nécessairement tous les TPL, mais des fois, t'as l'impression de te voir à part de ton corps. T'es tellement rendu un automatiste, on dirait que t'as l'impression de tellement tout faire de façon comme automatique, comme si t'avais même plus besoin d'être dans ta tête, que tu sais, essayer d'expliquer à ton médecin que t'as l'impression d'être à côté puis de te regarder faire de quoi, c'est ça. C'est un peu dur à expliquer, maintenant.
Puis t'as peur d'être jugé parce que probablement qu'une bonne partie de ton enfance puis de ton adolescence, t'as pas été comprise, tu sais.
Au moins, le médecin, c'est moins pire. Le médecin, au moins, il en a vu dans pas mal de toutes les sortes. Mais essaie d'expliquer ça, mettons, à tes amis.
Ouais.
Ou même tes parents. Quand t'expliquer le mal de vivre à tes parents. C'est un peu dur pour les parents de savoir que ton enfant, il ne ferait pas de vivre, là, tu sais, qu'il aurait skippé son tour, là.
Ouais.
C'est ça. Fait que pour les parents, c'est pas facile non plus. C'est dur à comprendre. C'est triste pour eux autres. Puis, tu sais, veux, veux pas, ils ont toujours le réflexe de parents. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de pas correct? Ou...
Ah oui. Puis, c'est à quel âge que tu as eu réellement le diagnostic qui a sorti?
Il a vraiment fallu que je sorte de la région.
OK.
Parce que quand je suis venue, quand j'étais ici, j'ai commencé à avoir des travailleurs sociaux. J'ai commencé à avoir des travailleurs sociaux, j'avais à peu près 14 ans.
Okay.
Après ça, j'ai rencontré aussi des médecins généralistes. Donc, depuis quasiment, bon, je devais avoir 16 ans, gros maximum, quand j'ai commencé les antidépresseurs, au moins ne serait-ce qu'à la base. Après ça, j'étais allée à Montréal, j'ai vu d'autres travailleurs sociaux, j'ai vu un médecin. Là, le médecin, deuxième fois que je me fais prescrire, me fait diagnostiquer en dépression majeure. Là, ça marchait pas parce que dans ma vie, tout était beau. Nouvel job, ça allait super bien. J'étais, tu sais, dans mes études que j'aimais, j'étais en appart. Tout était comme... Mais il me dit que j'étais dépressif. Là, ben, je me dis, écoute, marche pas, là. Tu sais, deuxième fois en dépression, puis là, il n'y a rien, là, pour que je sois dépressif. Tu sais, ah, il dit, OK, c'est bon, on va te prescrire... tu sais, je vais te donner une référence pour aller voir un psychiatre. Psychiatre, Montréal, même à Montréal, là, c'est extrêmement long, là. On s'entend. Ça avait, je pense, ça avait une couple de mois que j'attendais que finalement, c'est moi qui ai fini à l'urgence psychiatrique à Montréal. Il y a un hôpital psychiatrique, fait que je suis allée directement là-bas. Le psychiatre m'a fait faire des tests, là, t'sais, comme ne serait-ce que pour évaluer si... je me suis fait demander si Dieu était dans la pièce.
OK.
Genre, tu sais, ou s'il y avait, tu sais, je voyais des petits bonhommes ou des enfants de même, là, tu sais. Fait que, non, schizophrène quand même, là. Fait que, mais tu sais, au moins, il dit, ouais, je sais que t'es pas rendu là, mais il fallait quand même être seulement.
Ouais.
C'est bon. Là, il me laisse partir, puis il me donne une référence en externe. Fait que ça a pris quelques semaines quand même avant qu'on me rappelle, parce que j'étais pas jugée sur de rien. Finalement, j'y vais. Ils me font faire un beau test papier, là, tu sais, qui prennent plein de oui, non, comment tu te sens, 1 à 5, et bon.
OK.
Regarde ça, puis après 5 minutes, le diagnostic est tombé, c'est comme, bon, TTPL. Ah, fun, ça mange quoi en hiver?
Ouais, c'est ça.
Fait que là, c'est comme, bon, ben, tu sais, c'est le fun, j'ai le diagnostic, on fait quoi à cette heure? Ben, on va te prescrire plus de médication adaptée, puis à l'hôpital psychiatrique, ce qui est le fun à Montréal, c'est qu'ils ont un programme spécialement de groupe pour les troubles de personnalité.
OK.
Sauce qu'ici, je ne pense pas que ça se fait, là. Sincèrement, je ne...
Pas encore, non.
Tu sais, les CLSC font des fois des petites affaires de groupe, mais spécialisées en troubles de personnalité, je pense pas que ça se fasse, là. Je l'ai jamais vu, en tout cas, là. Mm-hmm. Puis même en revenant en région, j'en ai jamais entendu parler. Puis malheureusement, c'est pourtant ce qui fait quasiment le plus d'effet.
OK.
Ah, c'est rough, là. Écoute, c'est 15 semaines, puis on s'entend que les 15 semaines... c'est pas toutes les rencontres que j'ai toffées jusqu'au bout, puis les okay. intervenants m'ont peut-être pas full aimé non plus tout le temps, puis le monde non plus. Mais c'est ce qui m'a fait avancer le plus. Je l'ai fait même deux fois le programme.
Wow!
Oui.
Puis qu'est-ce qu'ils comprenaient, ce programme-là?
C'était comme un peu dans les... un peu les thérapies comme Alcoolique Anonyme, c'était à peu près pas mal ça. T'es assis en rond dans une pièce avec deux intervenants, puis t'es avec plein de monde, puis là, ben, tout le monde se parle un peu de ce qu'ils vivent, puis là, ben, les autres interviennent, puis ce qui est le plus rough, c'est que, ben, justement, t'es avec des pères qui ont le même problème que toi. Fait que c'est pas nécessairement la même façon qu'un intervenant qui va essayer de te faire comprendre quelque chose de façon plus professionnelle.
Ouais.
Donc, c'est sûr que les autres, ben, souvent, s'ils ont de quoi te le dire, ben, ils vont te le dire. Puis c'est de même que tu fais que, waouh! Mais des fois, c'est ça que ça prend, c'est plate, là. Mais une de mes thérapies, j'ai apostrophé une fille, elle n'est plus jamais revenue.
Ah oh, ouais! Ah oh, ouais!
Ouais. Oh, que je me rappelle, j'ai été vraiment rough. Puis après ça, c'est sûr qu'après ça, éventuellement, je me suis fait dire, ben, on veut pas parler, on a peur de toi.
Ouais, je comprends.
C'est comme...
Mais en même temps, ce que je trouve beau des thérapies comme ça, là, je me mets à penser, c'est que c'est un peu le miroir de ta blessure, miroir de ce que t'es ou ce que tu pourrais devenir en quelque sorte. Fait que ça vient chercher quelque chose en dedans, là.
Oui, puis tu sais, d'un certain sens, c'est une thérapie en plus de troubles de personnalité. Fait que c'est pas juste des limites.
OK.
Vraiment, là, t'as des histrioniques, t'as des narcissiques, t'as un peu de tout, là. Fait que ça va vraiment aller chercher... Mais souvent, tu sais, on dit trouble. OK, c'est belle fun, on dit trouble de personnalité, là, mais personnellement, je vois ça comme une étiquette de plus dans le front, là.
OK.
En soi, le problème, c'est les comportements. C'est pas l'étiquette que t'as dans le front, c'est les comportements. Fait que souvent, les mêmes comportements vont être relativement quand même similaires. Dans les troubles de personnalité, on s'entend que si on parle de troubles plus graves comme la schizophrénie ou vraiment, tu sais, les troubles paranoïdes, c'est pas la même mm-hmm. chose. Là. Mais souvent, ça va pratiquement tout avoir le point central de la gestion des émotions. Donc, le manque de filtre. Donc, souvent, on va dire des choses qui, des fois, le monde va dire « Ouais, mais ça se dit pas. » Ben, pour toi, c'est... Tu comprends pas pourquoi. Puis, tu sais, c'est déjà arrivé, là, que tu demandes au monde pourquoi, puis qu'ils te répondent. Ben là, franchement, c'est clair.
OK.
Non, je te le demande, c'est pas clair. Puis que là, ils te regardent avec, tu sais, des petits yeux comme si c'était un être
extraterrestre. Oui,
c'est ça. OK. C'est pas. Souvent, c'est les mêmes choses qui reviennent, puis. Mais c'est juste différents noms. Il y en a que c'est plus des comportements qui vont ressortir plus un trouble spécifique. Le personnalité limite, c'est drôle parce que j'ai toujours décrit ça comme quelqu'un qui était comme une bombe avec un couteau dans les dents.
Okay.
Vraiment, là, c'est l'humeur. Contrairement, mettons, au trouble bipolaire qui est comme l'humeur qui change, mettons, 6 mois à peu près, tu sais, c'est vraiment des vagues. Le trouble personnalité limite, c'est comme un peu la même gestion des émotions comme ça en montagne russe, mais à la journée.
OK, quand même.
Fait que dans une journée, tu peux autant être super high que tu peux vraiment venir très fâché. Puis des fois, ça va être pour des choses que ça a vraiment pas raison, là. Puis quand quelqu'un va te dire de quoi que t'as vraiment raison d'être fâché, tu vas faire comme, ouais, puis
OK.
C'est vraiment... Non, ouais, je comprends. Tu sais pas, on dirait, à quoi t'attendre. Là. C'est vraiment comme... C'est
puis pas toi, ça que c'est... Tu parles de la colère dans l'émotion qui est le plus... il y a plus là pour toi, mais est-ce que le trouble de personnalité limite dans... En général, c'est la colère qui est souvent l'émotion la plus...
La colère et la dépression sont souvent ce qui reviennent okay. le plus. Ceux, moi, en tout cas, que j'ai connus, c'était souvent des troubles de colère. Il y en a que c'était, tu sais, colère, fâchée, haine, mais il y en a que c'était rendu littéralement physique, là. Ça peut aller jusque-là. Souvent, c'est... Quand tu demandes à quelqu'un comment tu te sens, puis qu'il dit tout le temps, je suis en crise. OK, mais pourquoi? Ben, je sais pas, au moins. Ça me fait chier. OK, oui, mais en dehors de ça, fait que souvent, ils voient même pas ce qu'il y a en dessous. Okay. C'est souvent ça, malheureusement, c'est qu'ils comprennent pas d'où ça vient. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont pas bien.
OK.
Fait qu'ils sont pas bien. Fait qu'ils sont en colère.
OK.
Fait que c'est un trait qui est quand même plus ressortant dans ce genre de troubles-là. Puis la dépression, ben, c'est sûr, parce que le mal de vivre est souvent fréquent. Fait que si le fait juste d'exister te fait sentir mal, ben c'est sûr que t'as pas vraiment le goût d'être de bonne humeur nécessairement, là. Fait que, tu sais, c'est souvent malheureusement un trouble qui est plus négatif, que tu vois plus que ça tire du jus. Pour les proches autour aussi, ils vont souvent trouver que justement, tu sais, c'est des personnes qui sont toxiques, qui viennent chercher l'énergie, que c'est d'où le fait en sorte que tu te ramasses des fois un peu tout seul.
Mm-hmm.
Parce que justement, les autres, là, c'est rough pour être proche de toi. Tu sais jamais s'il va être fâché. Souvent, on va parler ce qu'on appelle du clivage. Une personne ne peut pas être grise. Elle va toujours être noire ou blanche. Fait que la personne va être ta meilleure amie tant que tu vas trouver que tout ce qu'elle fait, c'est bien. Et du moment qu'elle va te fâcher juste un petit peu, ça va être la pire personne au monde, puis elle va oublier tout ce que tu as fait de bien.
Je comprends.
Jusqu'à ce que là, tu obtiennes son pardon. Puis là, tu vas redevenir blanche comme neige.
OK, je comprends. Fait c'est vraiment...
C'est ça. Ah, fait que ouais. Imagine quelqu'un là qui a des relations, puis qui là, une journée, il t'aime bien gros, puis tout. Puis l'autre journée, il veut quasiment t'assommer dans le mur. Là. Fait que,
je comprends.
Okay. C'est, ça vient du style, là. Puis surtout quand, ben pas juste quand t'es amie, mais même avoir une relation de couple. Au début, c'est un peu plus rose, parce que la personne est de bonne humeur, mais moindrement qu'elle sent une fragilité dans la relation. A tellement, on dirait, peur de l'abandon, qui est quelque chose d'assez commun, qu'elle essaye vraiment comme souvent de s'accrocher ou au contraire de repousser l'autre, comme pour dire comme ben tu vois, j'avais raison.
Mm-hmm.
Tu sais, ils sont tellement l'impression souvent d'être comme difficile pour les autres qu'ils vont comme repousser l'autre, puis là après ça, il fait comme ben.
Il s'auto-rejette ou il travaille.
C'est ça, il fait comme déjà comme ils ont tellement peur de se faire rejeter qu'ils se font rejeter, ils font tout pour être rejetés avant. Je que comprends. L'autre le fasse.
Oh, oui.
Fait que tu sais, c'est vraiment, les parents, c'est sûr que souvent, ça va être un peu plus difficile d'avoir la séparation parce que, veux pas, c'est tes parents. Fait que, tu sais, tes parents rejetés ton enfant, là, fait comme, ben là, c'est dur, là. Ça arrive moins souvent. Dans certains cas, ça va être ça pour, mettons, soit la personne qui souffre du trouble va mettre la distance ou des fois, c'est les parents qui vont mettre la distance. C'est sûr que déjà être un parent, c'est difficile. Fait qu'être un parent d'un enfant qui a une hyper-émotivité, c'est encore plus difficile. Fait que peu importe, on dirait, ça va développer certains troubles, puis tu sais, souvent, ça va être dur pour le parent, puis il saura pas comment agir, puis des fois, ça va être plus facile de se retirer que d'être là, puis d'essayer de réagir, mais que c'est pas toujours positif.
Puis toi, dans ton cas, quand c'est arrivé le diagnostic, est-ce que t'en as parlé justement à tes parents? Y a-tu eu un comme « Ah, oh, OK, là, on met des mots sur qu'est-ce qui s'est passé » ou...
Quand j'ai commencé à 14 ans à rencontrer une travailleuse sociale, ben c'est sûr que rencontrer une travailleuse sociale, quand t'es à l'école, ça se rencontre pas de soir, ça se rencontre pas de fin de semaine. Surtout, ben là, t'es étudiante. Fait que souvent, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en viennent à l'école te voir. Fait que t'as juste à ça, tu sais, avant ton cours, ben au lieu d'aller à ton cours, tu t'en vas là, puis à la fin de la période, tu retournes à ton prochain cours. Fait que là, ben, moi, j'avais commencé, mais je l'avais pas dit à ma mère. Mais là, je savais que le bulletin s'en venait. Puis le bulletin, c'est marqué toutes tes absences dessus. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, faut que je parle à ma mère avant, hein. J'ai pas le choix, parce que sinon, ça va pas passer. Fait que j'y en ai parlé avant, quelques jours avant que mon diplôme, mon bulletin arrive, puis... Ça a été plus un A, OK, on a discuté un peu. Elle est venue voir une fois avec moi la travailleuse sociale. C'était elle qui m'avait suggéré là, qu'on vienne tous les deux. Je crois que ça a été difficile. Elle n'est pas revenue après. Là. OK. Fait que, tu sais, on aurait pu qu'on poursuive là, avec parents-enfants, mais non. Quand je l'ai amenée une fois chez le médecin, parce que je savais que c'était la vision de ma mère par rapport, tu sais, aux antidépresseurs, ça, c'était pas vraiment nécessairement positif. Fait que je l'ai amenée avec moi chez le médecin. Ça a été difficile.
OK.
Même après mon diagnostic, j'y ai dit, hein, comme, ah, OK, il y a un mot, il y a de quoi, tu sais. Mais l'acceptation du trouble, c'est, tu sais, je l'ai senti vraiment réellement dans quelques dernières années, là.
OK.
C'est à ce point-là, puis tu sais, même là, c'est dans les dernières années que j'ai été stable vraiment, puis que j'ai pu y faire comprendre tout le pourquoi il y a tellement eu de distance, il y a la difficulté en général.
Mm-hmm.
Fait que sinon, à ce moment-là, c'était... C'est dur d'expliquer ça à tes parents, fait que c'est...
Ah oui.
T'sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est veux pas, il y a des parents qui sont super ouverts là-dessus, là, que, tu sais, eux autres, c'est wow, tu sais, OK, c'est bien que t'en parles, comment tu te sens, comment tu fais ça, tu sais, oui, OK, sont pleinement, sont plus ouverts à ça. C'est sûr que il y en a d'autres qui sont plus fermés à ça, dépendant de, t'sais, des connaissances ou... Il y en a qui connaissent juste pas ça, vont aller faire des recherches, voir ça un peu, puis on fait comme moi. OK, il y en a d'autres qui ont entendu parler. Souvent, c'est sûr que sur les troubles de personnalité limite, il n'y a pas vraiment de prix, moi je pourrais dire. La seule chose que je pourrais dire qui est comme plus anticipée souvent, c'est que c'est majoritairement des femmes. Tu sais, souvent, on va faire comme ah, OK, folle.
Ouais, je comprends.
Ben, c'est pas mal, en général, tu sais, il y a pas vraiment de mythe ou autre que le bon vieux cliché de FO.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, un chum dit que sa blonde a des sortes d'humeur, des phénomènes. Ah, FO, ta blonde.
Ouais, ben,
des fois, c'est juste qu'elle n'a pas le diagnostic.
Ouais, c'est ça. Exactement. T'sais, mais là, de plus en plus, on en voit des diagnostics sortir de troubles oui. de personnalité limite. Toi, ça te rassure-tu? C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Tu trouves-tu que c'est comme facile, on dirait que c'est rendu de donner ce diagnostic-là, ou tu trouves ça bien quand même qu'il y a eu une augmentation?
Dans tous les cours de troubles de personnalité, psychologie, troubles de santé mentale que j'ai fait, j'ai appris que dans ce qu'on appelle le DSM, le bon vieux manuel de tout ce qui est troubles psychiatriques et autres, il y a des traits. Donc, les troubles se cotent en fonction des traits. Donc, sur 8 ou sur 10, donc, tu as 3, 4, 5 traits, puis ça te prend, mettons, 5 pour être diagnostiqué comme tel. Mais chacun des personnes ont des traits. Et souvent, tu as des traits de chaque. Souvent, ça va être plus maintenant des troubles de personnalité mixte.
OK.
Mais tout le monde a des traits. Ne serait-ce, tu sais, des troubles narcissiques, personne ne veut dire qu'il est narcissique, là. Mais on s'entend-tu que ça en prend un peu de narcissisme, sinon t'aurais zéro estime de toi, là, puis tu serais comme, mais oui, il y a un minimum, il y a tout un minimum de chaque partout, c'est ça. C'est juste qu'il y en a d'autres qui ont moins de quête de mécanismes d'adaptation qui fonctionnent.
Mm-hmm.
C'est d'un certain sens, avoir l'étiquette, c'est une étiquette, oui, mais le problème, c'est que des fois, c'est que ça prend l'étiquette pour avoir accès à des services pour ça.
Okay.
Le problème, souvent, c'est là. Le fait que tu veux un service spécialisé, ben, ça te prend le diagnostic qui va avec. Ou, ce qui est un peu aussi controversé, c'est le fait que tu ne peux pas être diagnostiqué pour un trouble de personnalité avant tes 18 ans.
Ah, ouais, OK.
Parce que, justement, ils disent que la personnalité n'est pas encore consolidée.
Ouais.
Sauf que le problème, c'est que les comportements sont souvent là bien avant. Fait que oui, ils n'ont pas de diagnostic, sauf que vu qu'ils n'ont pas de diagnostic, ils ne peuvent pas avoir d'aide spécialisée là-dedans parce que, tu sais, c'est comme une roue qui tourne en rond. C'est un cercle vicieux. Puis, personnellement, si j'aurais eu des services plus adaptés à mes 14 ans, j'aurais peut-être sauvé quelques années sur mes quasiment 20 ans de suivi.
Ouais.
ça aurait été probablement beaucoup mieux. Les services, c'est sûr que pour quelqu'un qui a étudié dans le domaine, puis quelqu'un qui l'a vraiment vécu, puis qui a vu aussi d'autres intervenants dans son milieu, j'ai vu autant des techniciens que des bacheliers. Les livres, ça aide. Tu sais, oui, le monde y étudie là-dedans, puis... Mais ils n'auront pas nécessairement vécu, ils n'auront pas nécessairement le réflexe d'adapter le bon type d'intervention en fonction de la personne. Tu sais, s'ils conseillent quelque chose, ben ça se peut que ça ne soit pas adapté à la personne. Mais si tu ne sais pas nécessairement pourquoi, parce que tu ne comprends pas ce qu'ils essaient de t'expliquer, je vais donner un exemple. Une cliente que j'ai eue à un moment donné, elle faisait des grosses crises de colère, là. Puis, elle venait voir, ben, je suis pas capable de me contrôler. T'sais, elle essayait de mettre un mot sur ce qu'elle ressentait. Je dis, dans le fond, t'es comme genre un flipper, là, puis tu sens la balle qui revole partout, là, puis que genre, ça pète de tous les bords. Moi, c'est ça. C'est de ressentir, ouais. D'être capable de savoir que ce qu'elle ressent là, là, c'est vraiment ça, puis qu'elle fasse comme, wow.
Mm-hmm.
Tu sais, elle m'a dit que j'avais été une intervenante. Qu'elle maïssait, mais que j'étais une bonne intervenante pour ça parce que je l'avais vraiment fait beaucoup travailler.
Mais c'est sûr, mais c'est oui.
C'est pas le fun. Parce que justement, les intervenants qui savent ce que tu as vécu vont aller travailler là où tu veux pas que ça aille travailler. Puis d'un certain sens, les travailleurs sociaux qui ont étudié ça plus d'un livre ou. Bien souvent, c'est sûr que c'est mieux quand tu l'as vécu parce que tu sais le réflexe d'évitement que la personne va avoir.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est avant que j'apprenne à gérer, ben, gérer mes émotions. À comprendre pourquoi j'étais toujours en colère, ça a été long. Très long. Parce qu'on m'expliquait, tu sais, toujours d'aller essayer de fouiller en dessous, puis de... Tu sais, il faut que tu comprennes le pourquoi. C'était dur de me l'expliquer autrement. De me l'expliquer de façon plus sur des mots qui n'ont pas été appris dans les livres, ou plus de façon, justement... d'être capable d'exprimer, de mettre le doigt avec des mots vraiment plus précis, qui ne sont pas souvent des mots techniques.
Mais non.
Fait que, tu sais, le flipper, là, je pense que j'aurais jamais vu quelqu'un m'expliquer le petit truc du flipper, là.
Mais non.
C'est dur d'imaginer pour quelqu'un qui l'a pas vécu que comment tu te sens quand tu payes 16. Tu sais, que la balle revole partout, ben c'est ça.
Puis toi, tu l'as-tu vécu, ça? Tu sais, moi, je le vois un peu comme un organisme communautaire versus des professionnels de la santé. Moi, je le vois, tu sais, je veux dire, avec la Fondation, à quel point les organismes communautaires sont importants, surtout avec ce qu'on vit en ce moment dans la société. Toi, as-tu eu la chance d'avoir une personne comme ça, une paire aidante, un peu comme on peut dire, qui a su t'épauler, qui a su dire, écoute, Alex, c'est normal, là, ce que tu me dis? Ou t'as juste vécu l'autre côté de la médaille puis t'as été cette personne-là pour...
Je te dirais que chaque souvent intervenant a son côté, a son bon côté.
OK.
Justement, puis j'ai créé une entreprise de paire aidante parce que, dans le fond, j'ai tellement fait 20 ans de suivi avec différents professionnels de la santé, mais justement, j'étais capable de voir qu'est-ce qui manquait à toutes les places. Parce que souvent, c'est dur de trouver un service qui va vraiment être adapté à toi. Les travailleurs sociaux ont tous une personnalité différente. On est tous uniques. Fait que ça, ça va de soi. Mm-hmm. Surtout aussi avec leur expérience. C'est pas tout le monde nécessairement qui va avoir 40 ans d'expérience. T'sais. Fait que j'ai essayé de tirer, de regarder tout le plus positif, de voir là où il y avait peut-être des manques. Puis, j'ai créé un service, vraiment une entreprise. C'est sûr que pour un organisme, on s'entend, là, c'est compliqué de créer un organisme quand tu veux être vraiment une intervenante. Tu ne fais pas partie d'un autre, tu ne fais pas... Tu sais, tu as bien beau avoir un DEC, tu as bien beau avoir suivi des cours à l'université, ne serait-ce qu'un certificat, tu ne fais pas partie d'un autre. Fait que ça, c'est quasiment pratiquement impossible. Il faudrait... tu n'aurais pas le choix de faire partie d'une grosse équipe pour créer un organisme. Donc, je m'étais dit, ben au moins un service privé. Surtout au fait que les organismes, le besoin est tellement grand qu'ils ne fournissent pas.
Non.
Aller au CLSC pour dire que tu as besoin d'aide, en tout cas, c'est à peu près un an d'attente en général, je dirais. Fait que c'est sûr qu'en un an, c'est parce que s'il va, c'est pas dans un an que tu as besoin d'aide. Ne serait-ce que juste du soutien en attendant d'avoir un aide spécialisée vraiment, mm-hmm. là, ça prend au moins ça. Puis à moins que tu vraiment que tu y ailles puis que tu te dises que tu es sur le bord vraiment de t'ouvrir les veines là tout de suite et maintenant, tu vas être sur une liste d'attente.
Encore là, ils vont t'envoyer à l'hôpital, puis tu vas faire ça. le temps que la bombe...
Oui.
Ah oui, le temps puis que le feu...
Le monde a peur d'aller à l'hôpital parce qu'ils ont peur d'être hospitalisés contre leur gré.
Ah oui.
Puis même quand, moi, à l'hôpital Montréal, m'avait suggéré d'être hospitalisé. Je dis, OK, mais volontairement, tu vois, oui. OK, mais après? Ben, après quoi? Oui, mais je vais-tu pouvoir sortir quand je veux? Oui. Mais je criais tellement pas ça, j'avais tellement peur d'être de plus pouvoir sortir quand je voulais que j'ai refusé de me faire hospitaliser.
Ouais.
Au final, j'avais tellement peur que ça devienne comme ce qu'on voit dans les films, dans les affaires, que là, t'as plus le droit de sortir. Fait que j'ai refusé. Fait que souvent, le monde ne va pas aller à l'hôpital. Puis tu sais, même aller à l'hôpital, de nos jours, après la post-pandémie, quand un médecin te dit, ben, à part si tu fais une crise cardiaque ou un AVC, là, va pas à l'urgence, là, ben, ouais. C'est ça, tu sais. Ouais. Fait que si tu vas là parce que t'es dépressif, c'est ça. Fait que tu verras pas un médecin avant quand même plusieurs heures. Fait que t'as deux, trois fois le temps de changer d'idée.
Ouais.
Fait que c'est pas adapté. La société de nos jours a tellement de besoins versus ce que le monde font. Puis même, c'est triste à dire, mais c'est même les conditions de travail pour un intervenant. Tu sais, quand tu dis que c'est une vocation, là...
Ah oui, totalement, totalement.
C'est ça. C'est que souvent, parce que justement, les salaires sont extrêmement bas. T'as pas d'avantages sociaux. T'as pas de fonds de retraite. Fait que souvent, c'est plate. Faut que t'hypothèques ton futur pour un des autres. Mais pour quelque chose qui est vraiment nécessaire pour la société... Mais vu que, justement, c'est une vocation, tu sais, quand on dit une vocation, on dirait que le monde, dans ce temps-là, sont comme, bah, tu sais, toi, tu fais ça par vocation, fait que c'est pas grave si t'as des mauvaises qualités. Et au final, là, la personne qui a des mauvaises qualités va y aller. Qu'à un moment donné, ben, ta condition de vie évolue. Tu veux un enfant, tu veux une maison, une voiture, ton salaire ne suffit pas. Parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui vit en couple nécessairement. Tu sais, ça m'est déjà arrivé à Montréal là, de plus arriver parce que quand je suis devenue permanente, ben les assurances, j'avais pas le choix de prendre les assurances, mais moi, j'avais pas de conjoint. Puis rendu une fois assurée, j'avais juste plus moyen de garder un appartement.
C'est fou, hein?
Tu sais, c'est plate à ce point-là. Tu sais, il y en a que c'est à Montréal qui étaient sur deux, trois listes de rappel dans des organismes pour réussir à arriver. C'est des listes de rappel. Fait que tu sais jamais quand est-ce que tu vas travailler, tu te fais appeler à la dernière minute, c'est comme peux-tu venir tout de suite, ou souvent c'est des nuits, des fins de semaine. T'as pas de conditions. Fait que c'est sûr que ben, à ce moment-là, c'est plate, mais la personne lâche l'organisme à but non lucratif et va souvent travailler, comme par exemple au Saguenay, Celsius.
Ouais.
Tu sais, les organismes, ben c'est plate, mais souvent ils manquent de monde parce qu'ils vont tout au Cius.
Ouais.
Tu sais, je dirais que j'ai travaillé dans un organisme, puis maintenant que je travaille vraiment pour un travail, mettons, gouvernemental, ben ça fait 20 000 de différence par année.
Oui, c'est ça.
C'est non négligeable, veut pas, là. Fait puis le coût de la vie n'arrête pas d'augmenter. Fait que ça s'amène à disparaître, c'est plat. Fait que moi, ben j'ai voulu créer un service qui était non seulement spécifié vraiment, tu sais, qui était comme... qui fournissait tout ce que je trouvais qui manquait en certains sens dans les thérapies. Mais je l'offre également pour les adolescents, parce que souvent, c'est là que c'est rattrapable le plus. Les adultes, parce que des fois, ils n'ont pas eu la chance d'être rattrapés jeunes. Pour les couples, mais pas juste les couples qui vivent ensemble maintenant. Ça peut être des parents qui sont séparés, puis que la garde des enfants, c'est difficile.
OK.
Tu sais, quand les parents, ils chicanent la garde, ils sont pas capables de s'endurer un ou l'autre, ou, tu sais, puis que ça devient entraîner des conflits, la mère dit que le père, c'est un ça, puis là, ben, la DPJ est embarquée. C'est ça. Fait que souvent, là, ça serait comme le bon milieu de au moins réussir à les faire travailler ensemble pour le bien de l'enfant.
Ouais.
Et aussi pour les parents avec enfants. parce que c'est sûr que ça peut être parents monoparentales, ça peut être les deux parents, ça peut être pour que des quand ton adolescent, tu sais, des fois on dit bah ton adolescent il y a une grosse crise d'adolescence. Ben pas nécessairement. C'est peut-être que justement c'est les comportements qui vont juste devenir plus permanents, qui vont mal s'adapter. Donc souvent ben les parents ça reste quand même les personnes que tu vis avec le plus souvent.
Ben oui. Puis tu sais, on banalise beaucoup ça, là, la crise d'adolescence, c'est une passe. Fait que je pense que l'importance d'aller peut-être vérifier, tu sais, c'est une possibilité au moins, tu sais. Oui. Ils peuvent venir te voir, tu sais, juste vérifier ou aller voir un professionnel de la santé, juste pour dire est-ce que c'est une possibilité de, puis après ça, on peut les accompagner. Oui. Je pense que...
Tu sais, même en soi, le service que j'offre, tu sais, on s'entend, je suis pas médecin. Je suis pas psychiatre, tu sais, je suis pas thérapeute.
Ouais, tu peux pas poser de diagnostic.
C'est ça. Mais en soi, on a-tu vraiment besoin d'un diagnostic?
Ouais, c'est ça.
Mon enfant a des crises de colère, je sais pas quoi faire, il arrête pas de m'envoyer promener. On s'en fout qu'il y ait un trouble qui est en train de se développer ou non. Il y a un comportement qui risque d'entraîner une mauvaise adaptation, donc d'autres comportements. À ce moment-là, ben, peu importe si tu veux une évaluation ou non, tu veux une évaluation vraiment formelle, tu vas avoir un psychiatre, mais tu as un an et demi d'attente.
Oui, c'est ça, exactement. En attendant,
ben, au moins, tu as de quoi pour, pendant l'un an et demi, ben, que tu puisses au moins travailler à pas que ça s'incruste pendant un an et demi. Puis rendu avec le diagnostic, ben là, il faut que tu défasses tout le comportement du dernier an et demi.
Mm-hmm.
Ce qui, on s'entend, c'est là, je trouve, que ça devrait être le plus. Puis c'est pour ça, souvent, que j'ai mis aussi parent-enfant, parce que les parents sont souvent la dernière personne à qui l'enfant veut se confier, déjà au départ,
mm-hmm.
dans bien des cas, surtout quand tu es un ado plus rebelle, je peux dire ça de même. Puis aussi, c'est que les parents, même s'ils essayent d'aider, ils ne vont pas nécessairement aider de la bonne façon. Ils n'ont pas nécessairement les outils pour gérer de la bonne façon. Puis surtout quand tu essaies d'apprendre à l'autre à gérer ses émotions, puis savoir, mettons, si sa méthode à lui, c'est de se retirer. Ou est-ce que, tu sais, des fois, même si on dit à quelqu'un de se retirer, ça ne peut pas se faire dès le début. La personne ne peut pas dire dès le début, stop et je me retire.
Ouais,
non,
c'est ça.
Ça serait vraiment dans un monde de licorne, mais non, c'est pas ça. Fait qu'il y a des étapes, puis ben, il faut apprendre aussi à l'autre à respecter les étapes d'un. Puis à l'aider, parce que si, mettons, t'essayes justement d'essayer de te retirer, mais que l'autre est pas au courant de ton mécanisme, tu sais, puis qu'il essaie de te gosser parce que lui, ça, il veut vraiment régler ça là, puis ça peut pas entendre, là, ben, il faut qu'il sache. Ouais. C'est ça. C'est. Faut qu'il sache comment l'autre, ce qu'il vit, comment lui, ça, il prend ça. Puis, tu sais, des fois, il sait même pas, là. Il va faire, bon, on va essayer ça, bon, on fait ça de même. Viens m'en voir dans une semaine, deux semaines, voir comment ça marche. Ah, viens voir. Marche pas pantoute. Bon, on va essayer autre chose. Mais c'est ça, il faut l'essayer pour trouver la bonne façon à chacun. Parce que justement, c'est une des choses que je trouvais qui était plate, justement, dans les interventions. C'est que, ben, il faut pas, tu peux pas attendre 3, 4, 5 semaines avant de dire, ouais, ça marche peut-être pas. Non, il faut que tu aies un temps de réaction plus vite que ça.
Mais oui.
Tu sais, surtout aussi, c'est que la personne, il faut qu'elle demeure motivée à te rencontrer. Si elle voit que ça marche pas pendant des semaines, la personne ne sera pas motivée si elle voit pas un progrès ou si elle voit pas au moins ne serait-ce que quelque chose qui est positif à ce niveau-là. Dans ce temps-là, ben.
C'est mais moi, ça. Ce que je trouve intéressant de ton approche avec l'approche aidante, c'est que t'as un coffre à outils d'expérience, tu sais, c'est ça. Fait que t'as vécu toutes sortes de choses qu'il a fallu que toi, tu puises, que tu trouves des outils à travers des professionnels que t'as vus, mais tu sais, t'as testé des choses. Oui. Fait qu'on s'entend que le coffre à outils, il est plein. Fait que quand il arrive avec quelque chose de négatif puis il dit ça a pas marché, ah ben t'as peu, là, je vais te sortir un autre, tu sais, une autre carte. Hein.
C'est vraiment drôle comment, vu, tu sais, que je suis vraiment comme père aidante, parce que techniquement, je n'ai pas de titre c'est vraiment légal.
Mm-hmm.
Le monde, souvent, ils viennent me dire, ouais, mais t'as quelles compétences? À part mon expérience, là, ils savent que j'ai été diagnostiquée, tout ça. Mais t'as quelles expériences au niveau de tes études? Ben, j'ai aussi étudié là-dedans.
C'est ça, c'est, ta force, là.
Tu sais, c'est ça, c'est comme, même si, mettons, la personne, souvent, c'est, même si tu l'as vécu, tu as 20 ans, tu sais, j'ai fait 20 ans de tout essayer, les styles de thérapie, de, d'aide possible, la personne, souvent, va me demander, « Ouais, mais qu'est-ce que tu étudies dans la vie? »
C'est ça que je veux un peu sensibiliser les gens à ça, parce que si on sera... Tu sais, des gens qui peuvent penser ça, je comprends, c'est une peur, c'est un vouloir de se faire sécuriser par les formations, puis par... Mais si on se ramène, là, intérieurement, souvent, on se tourne vers des personnes qui ont déjà vécu des expériences dans n'importe quoi, là.
Oui.
Tu vis, je veux dire, on dans nos expériences, on part avec notre auto, puis on a un accident, c'est qui qu'on appelle? On appelle nos parents, parce que c'est eux que ça fait des années qu'ils conduisent, oui, puis qui ont une expérience de vie. Mais quand on vit une problématique de santé mentale, je pense que un cadeau de la vie serait d'avoir une proche aidante ou un proche aidant près d'eux pour dire, écoute, avant même de commencer une thérapie ou avant même d'avoir un professionnel qui va me monter une... Peux-tu être là pour désarmer? Oui. Peux-tu être là pour juste me dire, hey, je te comprends, tu sais?
Oui. Puis ironiquement, c'est drôle parce que si tu vas dans un centre de détox, très souvent, c'est des anciens clients qui ont réussi. Les parents moraines, c'est tout du monde qui ont passé par là.
Ah, c'est pis sûr.
Ça, pour ce qui est des centres de détox, c'est toujours correct. Ah, oh, mais il a passé par là, tu sais, c'est comme moi, c'est du monde, tu sais, qui comprenne. OK, santé mentale, on dirait que c'est pas la même chose, par contre. Ça peut pas être quelqu'un qui souffre d'un trouble de santé mentale, parce qu'on voit tellement ça comme quelqu'un d'inapte.
Oui, 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 je comprends.
Que quand il
que
veut venir aider, tu le considères encore inapte, même si la personne a vraiment fait des progrès. De toute manière, elle pourra jamais être guérie. Ça va tout le reste de même.
Ah oui, c'est
tu
ça.
Tu peux atténuer, tu sais, beaucoup, tu peux être quand même fonctionnel. Mais juste parce qu'on dirait que t'as l'étiquette d'en face, tu viens de perdre la valeur.
Oui, puis je trouve ça ironique parce que on regarde un handicap, et on voit quelqu'un en chaise roulante qui a un diagnostic, on voit un autiste qui est, que ça peut paraître dans ses comportements, on parle pas, on dit, mais une problématique de santé mentale, vu qu'on voit pas ça, on voit, comme tu dis, une étiquette, on juge parce que c'est une incompréhension. De là, l'importance de sensibiliser puis de d'en parler. Fait que,
puis au niveau professionnel, c'est atroce, là.
Oui, c'est, je veux t'entendre là. À ce niveau-là. C'est quelque chose qui...
Ça, ça a été, je dirais, le plus compliqué de tout mon trouble, ça a été ça. Au début, t'es engagé. Là, t'as des difficultés. Tu sais, avant même d'avoir le diagnostic, t'as des difficultés. Fait que là, ben, t'as des aides disciplinaires, mais tu comprends pas trop. Fait que là, tu te fais mettre dehors. Là, maintenant, t'as le diagnostic. Fait que là, tu le dis pas parce que tu veux pas le dire à l'entrevue. Tu sais, on s'entend, je veux pas aller passer en entrevue et dire, ben ouais, mais en passant, j'ai un trouble de santé mentale. Et non. Fait que tu le dis pas.
Mais c'est
sauf
fou,
que ça
là,
ressort.
C'est... Ouais.
Après, tu sais, veux pas, tu l'as ton trouble. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des caractéristiques qui vont sortir. Là, l'employeur va voir ça, va en faire comme. Non, ça marche clairement pas. Va te mettre dehors. Tu le dis à l'entrevue, soit t'es pas prise, ou si t'es prise, ben souvent, ils font comme, ouais, mais elle me le dit, elle le sait, fait que ça sera pas trop pire que ça. Puis là, ben, ils se rendent compte que finalement, ouais, il y a des difficultés. Oui, mais c'est normal. C'est sûr qu'il va y avoir des difficultés, on le dit au départ.
Mm-hmm.
Mais finalement, ils se rendent compte que c'est difficile, fait qu'ils te sacent dehors aussi.
Fait qu'il y a un manque, là.
Il y a toujours un manque, tu sais, puis c'est... C'est vraiment le manque aussi de connaissances, de voir comment, quels sont les recours, déjà au départ. Qu'est-ce que tu pourrais demander comme ajustement? Parce que des fois, là, c'est il y a juste des petits trucs que les employeurs pourraient juste développer qui changeraient beaucoup de choses.
Ah oui, totalement.
Mais ça, c'est dans un certain sens, il y a des ressources qui soit sont trop petites et ne connaissent pas nécessairement toutes les... le potentiel d'un programme vraiment de soutien des employés ou, au contraire, sont trop gros. Fait que souvent, les ressources humaines, ben eux autres qui ont étudié pour faire de la gestion de ressources humaines, ils s'adaptent à ceux qui ont, mettons, justement, des troubles, vont adapter avec des chaires. Quand il s'agit de santé mentale, ça devient plus difficile. Il y en a qui comprennent, mais, tu sais, comme par exemple un schizophrène, bon, quand il est dans une bonne mauvaise période, il arrête de travailler, ils vont le reprendre quand il est prêt. Mais dans un trouble qui part, tu peux pas, genre, comme, attendre, bon, ben, viens m'en voir dans 3 mois quand ça va passer. Non. Fait qu'à ce moment-là, c'est les RH, c'est sûr qu'eux autres n'ont pas nécessairement le temps dans des grosses entreprises de vraiment prendre, faire comme, ben, pour ce type de personne-là, il faudrait adapter ça, ça, ça. Ou ça nécessite comme de la gestion supplémentaire, puis c'est pas tout le monde qui sont prêts à ça, puis des fois, c'est juste trop gros pour ça, ou C'est là que ça devient difficile.
Avec les hausses qui font que augmenter, avec l'impossibilité d'avoir de l'aide en ce moment, je pense qu'il va falloir que les entreprises s'adaptent à ça. Puis je pense que on en parlait un petit peu à la fondation aussi. J'en parlais avec Dr. Cossette. On se dit les entreprises doivent investir dans des formations pour mieux comprendre leurs employés. Oui. Juste la dépression ou l'épuisement professionnel est encore tabou. Oui. Fait que tu sais, on se dit là, je parle de la région là, mais tu sais, c'est oui. À travers le monde là, on va se le dire. Je pense qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là, puis à dire comment je fais pour garder mes employés, puis les aider, puis les soutenir. Parce que moi, je t'ai vu aller là, au travail là, une employée fidèle, une employée performante. Je t'aurais gardé toujours, mais malheureusement, il arrive des situations relationnelles ou quoi que ce soit, que tu as juste besoin d'être épaulée, comprise. On sort un petit outil, puis après ça, ça revient, là, tu sais. Oui. Fait que je me dis, il y a tellement de travail à faire à ce niveau-là. Puis,
c'est que pour le côté administratif, tu es un poids dans un certain sens. Parce que là, à ce moment-là, tu es comme l'employé qui sort du lot. Fait que peu importe comment tu performes au niveau de la tâche, la gestion que tu représentes dans l'entreprise en tant que telle, souvent, c'est ça qui dérange. Puis c'est ça qui fait que tu deviens moins apprécié, c'est que même aussi bien que tu as fait ta job, le fait que ça prenne un niveau de gestion différent, il n'aime pas ça. Puis d'un certain sens, là, en ce moment, la pénurie de main-d'œuvre est quasiment favorable parce que là, ils n'ont comme pas le choix de garder les employés. Ouais. Ça donne une chance. Mais d'un certain sens, c'est que là, ils les gardent. Mais il ne faut pas l'être non plus pour autant. Fait que c'est... Ça va, ils n'auront pas le choix de développer pour garder leur clientèle, ça c'est sûr, pour garder leurs employés. Mais d'un certain sens, c'est pas mieux si l'employeur garde l'employé parce qu'il n'a pas le choix.
Ouais, c'est ça.
Puis tu sais, même, c'est drôle parce que même dans le niveau des ressources de santé mentale, ça, des fois, il y a du jugement à l'interne envers des personnes qui souffrent de santé mentale.
Mais
tu vois ta collègue qui est en intervention, puis tu fais comme « Ouais, pété aux frettes. » Ça m'étonne qu'elle n'ait pas pété aux frettes avant. C'est, tu sais, ça fait déjà six mois, puis elle est toujours pas revenue. Il y a des jugements, même envers les professionnels de la santé, qui travaillent là-dedans.
Mais moi, d'un autre côté, là, je le vois dans le sens où c'est le miroir un peu de ce qu'ils vivent, parce que les gens sont épuisés en ce moment.
Oui.
Puis j'ai l'impression que peut-être que c'est intérieurement, il y a quelque chose qui parle, elle n'est pas revenue encore, ça nous augmente une charge de travail. C'est tout ça là qui se passe aussi, parce que je pense que pour travailler en santé mentale, faut que tu aies une ouverture d'esprit, faut que tu aies une...
Oui.
Fait qu'il y a un gros travail à ce niveau-là.
Puis
à
même, faire. C'est pas juste une question d'ouverture. Tu sais, souvent, pour avoir travaillé avec des clients santé mentale, il y en a un certain niveau que c'est tellement difficile que même si t'es ouvert, ça vient prendre ton jus pareil. Quelqu'un en crise, même si t'es très ouvert à la santé mentale, on s'entend là que si tu passes ta journée dans une situation de crise là, toute la semaine, là, tu vas te brûler assez vite.
Ah oui.
Ça vient grugeant, ça vient... Puis ben quand tu pars en maladie, ben c'est sûr que là, en plus, on manque de monde. Fait que là, ils répartissent les tâches envers d'autres collègues parce que c'est un peu tannant d'engager quelqu'un pour quelques mois. Tu sais pas quand est-ce que l'autre va revenir. Souvent, c'est prolongé par mois. Fait que là, t'es mal pris. Fait que là, tu surcharges tes autres employés. Fait que dès qu'ils reviennent, il y en a une autre qui pète aux frettes. C'est comme une chaîne, une roue sans fin, quasiment.
Ouais, c'est
là.
Ça. Ah oui.
C'est mal fait. C'est un peu mal fait. J'espère qu'avec le temps, c'est sûr que ne pas pouvoir diagnostiquer les personnes de moins de 18 ans, ça ne changera pas. Ça c'est incrusté dans le monde médical. Et puis, d'un certain sens, je comprends le point de vue de la personnalité n'est pas consolidée. Sauf que d'un certain sens, c'est justement être en train de se faire.
Ouais, c'est ça. Ça serait bien qu'elle se fasse bien. Ben
c'est ça. Au moins que ça serait bien qu'elle se parte déjà bien avant d'arriver à 18 ans. Fait comme, bon, qu'est-ce qui est à réparer?
Puis crois-tu qu'un programme de prévention au niveau de d'un trouble comme le TPL pourrait être quelque chose de bien?
La prévention, oui. C'est sûr que ça aide beaucoup.
Tu sais, l'outillage par prévention, tu sais, dans le sens où si on voit un comportement à risque, il y a un suivi qui peut être fait. Justement. Ça pourrait, en prochaine danse.
C'est ça, tu sais, parce que la prévention, c'est bien le fun, là, de promouvoir, tu sais, d'accepter, d'être ouvert, qu'il y a des ressources. Mais c'est sûr que la personne elle-même, tu sais, même moi, avant que je commence à aller voir, c'était tout le temps à faute des autres, moi, au début.
C'était
jamais de la mienne. Oui. Écoute. C'est à cause de lui. Puis ça, on connaît tous quelqu'un que c'est toujours la faute des autres.
Mm-hmm.
Si on en connaît toute une personne que c'est ça. Puis avant de voir que quand c'est tout le les autres, c'est tout le problème, ben au final, c'est peut-être toi. Ben souvent, ça, déjà là, ça va être dur pour toi de savoir que toi, t'as un problème. Envers les autres, si eux autres, ils savent, c'est comme la personne aurait besoin d'aide. OK, fine, tu l'envoies où?
Ouais, c'est ça.
Même si tu l'envoies dans une ressource, tout le monde a des délais d'attente. Non seulement tout le monde a des délais d'attente, mais souvent, c'est de jour, 8h à 4h, lundi au vendredi.
Mm-hmm.
Fait que moi, ben j'offre, mon entreprise offre la disponibilité, mais de soir et de fin de semaine.
OK.
Parce que de 8h à... Les enfants partent à l'école jusqu'à, quoi, je pense, à finir à 4h30 quand ils reviennent à la maison, 4h30, 5h. Les parents travaillent souvent du lundi au vendredi, une minute à 4, lundi au vendredi. Fait que, tu sais, ils ont... C'est compliqué de nos jours de pouvoir se faire un trou dans notre horaire professionnel, mm-hmm. de faire manquer de l'école à ton enfant, parce qu'en plus, il faut que tu ailles le chercher, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu reviennes le porter, il faut que tu ailles toi. Fait qu'au final, les soirs, fin de semaine, ça reste le mieux.
Mais oui.
Un samedi matin, tu y vas, puis après ça, tu as le reste de ta journée. Ou tu fais ça plus en après-midi, parce que, mettons, quelqu'un aime se lever tard, mais tu y vas plus tard. Fait que c'est, j'ai essayé d'adapter ça à ce qu'il y ait le moins de restrictions possibles.
Est-ce que tu aimerais, à travers les semaines, à travers les années, faire des collaborations avec des organismes ou, mettons, ton rêve, ce serait-tu d'être référé? Ça pourrait être quelque chose que tu aimerais?
Ce que j'aimerais, ça serait être capable de pouvoir aider. Tu sais, même au niveau du CLSC, ils ont tellement des listes d'attente, là. Puis, tu sais, pour avoir eu ce service-là souvent, c'est vraiment ce service-là que j'offre à long terme. De l'écoute, du soutien, identifier les comportements et réussir à faire des actions qui sont quantifiables, des choses qui sont vraiment clairement définies pour, après ça, arriver à voir, souvent là-bas, c'est des rencontres d'à peu près 15 rencontres à peu près là pour avant que tu vois si ça a besoin d'être renouvelé ou non. Ben moi, 15 semaines, là, une heure par semaine pour quelqu'un, si je peux en prendre, mettons, 40, je viens de faire un méchant trou dans la liste d'attente du CLSC.
Mais je ne
peux pas, parce que je ne fais pas partie d'un autre.
Je comprends.
Okay. Et que ma technique ne sera probablement pas suffisante.
Okay.
Même si j'ai 20 ans d'expérience dans la maladie elle-même, ça compte pas. Et ça sera jamais pris en considération en général.
Okay.
J'ai travaillé dans des places où... dans un organisme où j'aurais pu littéralement donner une thérapie de gestion de la colère tellement que c'était là longtemps. Mais je peux pas. J'ai pas le diplôme.
OK.
Mais d'avoir été cliente pendant des années, de l'avoir faite de A à Z, d'avoir réussi de passer à « je frappe quelqu'un » à aller jusqu'à « je ne suis même plus capable de crier après quelqu'un », ben l'enseigner, je peux pas. J'ai pas le bac.
Fait qu'il y a un développement à faire à ce niveau-là aussi. Il y a une amélioration là, d'ouverture.
C'est ça. Puis, tu sais, il y en avait des personnes à l'administration qui me disaient « Ouais, mais je comprends pas, ça n'a pas de bon sens que ça soit pas pris en compte. » D'un certain sens, je comprends que c'est dur à quantifier. C'est dur de connaître la qualité de ce que la personne peut démontrer. Ça, je comprends, puis c'est très, très difficile. Puis c'est pour ça que, tu sais, même si je voudrais, mettons, agrandir mon entreprise, ça serait vraiment difficile parce qu'il faudrait que je m'assure que la personne aidante ait la capacité de le faire, de le transmettre. Fait que ça, je comprends la difficulté. D'un autre sens, c'est que s'il y a personne qui essaye, ça ira jamais plus loin. On peut pas dire, ben, il y a trop, tu sais, on sait pas si ça va marcher, fait qu'on l'essayera pas.
Mm-hmm.
Ben, d'un certain sens, c'est plate, mais s'il y a personne qui essaye, il y a personne qui va réussir.
Mm-hmm. Puis il y a probablement des professionnels, des intervenants, des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vont nous écouter puis qui ça va leur parler. Serais-tu ouverte à collaborer auprès peut-être de des milieux ou des professionnels à dire on fait un projet pilote avec la prochaine danse?
Toujours partante.
Tu serais super partante parce oui. que je pense sincèrement qu'il y a quelque chose à développer en région. Il y a beaucoup de gens que ça va les interpeller parce qu'il y a beaucoup de diagnostics oui. de TPL qui sont en train oui. de... Puis il y a beaucoup de gens qui cherchent de l'aide puis qui savent oui. pas, des parents qui comprennent pas là, nécessairement Totalement. Les comportements de leur enfant. Puis,
souvent même, c'est bien d'avoir une équipe, ce qu'on appelle multidisciplinaire.
Oui. Mais oui.
Donc, que tout le monde puisse avoir, faire sa petite part, on se discute entre nous, là, on dit, ben, écoute, moi, je vois qu'il y a des difficultés à ce niveau-là, toi, tu pourrais m'aider avec ce niveau-là, puis on essaye de tout mieux intervenir, d'adapter encore mieux.
Mm-hmm.
Puis, non seulement ça aiderait les utilisateurs des services, mais en plus, ça leur sauverait bien des années.
Ben, totalement, vraiment.
20 ans de thérapie, c'est long, là. Ça veut dire que, tu sais, 14 ans, j'ai commencé à 14 ans, je suis rendue à 38 ans. Il y a peut-être 3-4 ans que j'en ai pas fait. Fait que c'est ça. Ça fait au moins ça, 20 ans. Fait que okay. c'est long.
Okay.
J'aimerais ça pouvoir que le service que j'offre puisse faire sauver quelques années au monde.
Ouais.
Ne serait-ce là que, tu sais, qu'il n'y ait pas à attendre aussi longtemps pour réussir à avoir un résultat positif.
Mm-hmm.
De pas avoir à attendre que... tu tombes sur les bonnes personnes, tu sais, c'est comme, ah, pas cette fois-là, puis tu sais, il y a des utilisateurs qui utilisent juste même plus les services à cause de ça.
Mm-hmm.
Ils ont trouvé que les intervenants comprenaient tellement pas ou qu'il n'y avait pas le lien, mm. ou... fait qu'ils n'y allaient plus.
Mm.
Puis tu sais, j'en ai qui m'ont approché pour mon service, puis que c'était comme, non, tu comprends pas, je veux rien savoir des organismes, tu sais, je veux pas aller au CLSC, je veux pas, j'ai ouais. déjà essayé, puis je veux rien savoir. Fait que c'est... Ça, malheureusement, c'est plate parce que, justement, si on développe pas d'autres méthodes, ben le monde ne va juste plus chercher d'aide.
Oui, c'est ça, puis ça va pas bien... En effet. Rien qui va se régler, là.
Non, puis c'est ça, puis tu sais, c'est... Moi, j'aimerais ça qu'on puisse, justement, se... faire des partenariats. Mais c'est ça. C'est tellement rendu limité parce qu'il faut que tu prouves tout.
Oui, c'est ça.
Si tu n'as pas le diplôme étant payé de bac... Mm-hmm. C'est,
mais là, il y a une ça. Ouverture qui se crée. Moi, j'ai espoir, oui. vraiment.
Ah, oh, je travaille.
Puis j'ai une question, en fait, à te poser ou peut-être une affirmation que tu vas pouvoir poursuivre. S'il y a une petite oreille qui nous écoute, qui a eu le diagnostic ou qui sent peut-être qu'il pourrait avoir le diagnostic avec la personne qui était devenue aujourd'hui, qui pour moi est très inspirante, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Parce que, tu sais, je veux dire, tu as ta maison.
Oui.
T'es mariée.
Oui.
Tu sais, c'est extraordinaire, oui. là. Fait que, tu sais, je pense que c'est possible, là, de vivre avec un
J'aurais jamais pu penser à ça, là, ouais. il y a 10 ans. Là, on s'entend, là, je voyais même pas ça possible, là.
Mm-hmm.
Puis souvent, ce qui va être dit, quand tu vas voir, tu sais, tu vois du monde, tu te dis, écoute, je vois pas le bout. Tout le monde va dire, ben non, ça va aller mieux. OK. Ça manque un petit peu de réalisme dans le « ça va aller mieux ». C'est un jour, ça va aller mieux, mais en attendant que tu te rendes là, c'est plate, mais ça va être encore difficile.
Mm-hmm.
Il va vraiment falloir que tu travailles, mais un jour, ça va aller mieux. Mais faut, tu sais, c'est ça, c'est que ça va être difficile de se rendre là, mais c'est possible.
Mm-hmm. Puis c'est toi, ce juste, que tu veux,
c'est ça, c'est pas juste le « ah, oh, ça va aller mieux, t'inquiète pas ». Non, c'est la réalité, c'est oui, ça peut aller mieux. Si tu passes par là, c'est plate, oui, ça prend des efforts, ça prend que oui, c'est difficile, mais se regarder soi-même, c'est toujours difficile que tu aies un trouble ou non.
Mais oui.
Il y a personne qui va aller voir là où ça fait mal.
Mm-hmm.
C'est normal, c'est humain, mais c'est ça qu'il faut. Fait que si tu veux voir la lumière au bout du tunnel, c'est ça que ça prend. Fait que oui, ça peut aller mieux.
Mm-hmm. Puis s'il y a un parent d'une personne qui a le trouble ou qui a peut-être... Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces parents-là? Peut-être un petit conseil?
Je dirais que moindrement que la personne sent que ça pourrait aider, de ne pas hésiter. Trouble ou non, là, même pas juste de penser s'il y a un trouble ou... Ah, peut-être... Non, tu vois qu'il y a un comportement qui est à travailler de communication, au niveau relationnel, professionnel. Au pire, vas-y juste une fois. Essaye, tu vas voir. Écoute, si tu dis qu'au final, non, c'est pas si pire que ça, puis que, écoute, finalement, non, ça va être correct. Mais au moins, tu auras essayé.
Mais
oui. Tu vas avoir compris que, OK, non, c'est pas si pire que ça. Puis, ben, si tu y vas, puis que oui, effectivement, tu vois que, ben, ça va prendre du travail, ben, au moins, tu le sauras, puis tu sauras que ça peut aller mieux. Mm. Mais c'est ça. C'est... Puis, il vaut mieux faire le trajet à deux que le faire tout seul.
Ah, tellement. Puis c'est où que les gens ils peuvent prendre contact avec toi?
Moi, j'ai une page Facebook sur qui s'appelle À la limite. Okay. J'ai mon site web alalimite.net. Toutes les coordonnées, que ce soit par courriel, téléphone, en ligne, sont toutes disponibles. Toute personne qui veut me contacter vont toujours avoir une réponse dans les 24-48 heures en général. Puis je dirais, même si c'est juste pour des questions, qui n'hésitent pas.
Ouais.
Ben justement, je suis totalement ouverte pour aider tout le monde.
Mm-hmm.
C'est pour ça que j'ai marqué diagnostiqué ou non. Parce qu'il n'est pas juste une question de diagnostic.
Ah non, toi, tu veux faire une différence avant le diagnostic même.
Oui,
là,
c'est ça. T'sais, la communication, c'est tellement sous-estimé, là, ne serait-ce que le parler aux gens.
Oui, ben oui, c'est comme tellement.
Tu dois savoir comment c'est difficile de parler aux gens.
Ben oui. En tout cas, moi, je te remercie du fond du cœur, de ton ouverture, du partage que tu as fait. Je pense que ça va venir chercher tellement de gens. Puis j'encourage autant les professionnels, mes amis, collègues en santé mentale, si vous souhaitez approfondir, faire confiance à quelqu'un de wow, quelqu'un qui peut faire réellement une différence auprès de vos usagers, je vous encourage. Vous le savez, on est proches, mes intervenants. Vous faites confiance à Mairie depuis 4 ans à la Fondation, mais vous pouvez me faire confiance vraiment avec Alexandra. C'est une perle rare. Alors, je vous encourage à communiquer avec elle sur sa page Facebook ou son site web. C'est sans limite, c'est ça?
À la limite.
À la limite, désolée.
J'ai voulu faire une petite joke avec le trouble de personnalité limite parce que toujours l'impression d'être à la limite. Ah, tu vas essayer un peu.
Ah, ben, c'est bon! Ça.
Fait que j'ai voulu trouver quelque chose qui était...
Original.
Un peu significatif avec ça.
Wow!
Puis je suis vraiment très bien centrée. Pour ceux qui se le demandent, moi, je suis en plein cœur du centre-ville. Je suis dans le même building que le Palais de justice.
À Chicoutimi.
Oui, à Chicoutimi. Fait que j'ai un local, fait que c'est, tu sais, c'est privé. C'est le milieu, le local, me ressemble.
Ah, je vous encourage vraiment et puis je remercie encore une fois les caisses Desjardins de Saguenay qui nous encouragent dans ce beau projet porteur d'espoir là. C'est grâce à vous qu'on est en mesure d'inviter des personnes extraordinaires à chaque semaine. Alors ce sera pour une prochaine épisode. Merci.
Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps puis de m'avoir invité.
Ça me fait plaisir. Et puis encore une fois, je tiens à faire une petite mention à notre belle Renée D'Amour qui est malheureusement quittée notre terre le 12 mars dernier. De tous les membres de la Fondation Équilibre et de la Fondation Vue Ma Santé Mentale, on te dit un gros « je t'aime ».
Ce balado est produit en collaboration avec la télé du Haut-du-Lac.